Bonjour chacun, chacune. Ça va bien?
Oui.
Oui? Excellent. Ce matin, comme je l'ai annoncé dans les derniers mois, j'aimerais commencer une série qui me tient beaucoup à cœur. L'an passé, pendant que j'étais en train de préparer les études sur les miracles de Jésus, dans l'Évangile de Luc, peut-être vous rappelez, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais étudier et partager avec mes frères et mes sœurs pour nous encourager dans la foi après que cette série-là soit terminée? Puis durant l'été passé, au début de l'automne passé, j'ai eu le privilège de lire trois bons livres qui m'ont vraiment touché, puis qui m'ont convaincu de partager ce que j'aimerais vous partager dans les prochains mois. Le premier livre que j'ai lu, c'est un livre de John MacArthur, L'Évangile selon Jésus, Isaïe 53. Le deuxième livre que j'ai relu, c'est un classique de John Stott, La Croix de Christ, que peut-être vous avez déjà lu. Puis le troisième livre que j'ai lu, c'est d'un auteur qu'on ne connaît pas beaucoup, Le Triomphe de la Croix. Et à la suite de la lecture de ces trois livres-là, je me suis dit, j'aimerais partager à mes frères et mes sœurs que j'ai vu dans ces livres-là, la centralité de la croix. Combien la croix est importante, profonde et suffisante. La croix de Christ, on n'a pas besoin de rien de plus que ça. J'aimerais vous lire une citation d'un grand théologien qui s'appelle John Stott, qui a dit ceci. « Vivre sur la croix veut dire que chaque aspect de la vie du chrétien est influencé et coloré par la croix. » La croix ne fait pas que nous inciter à la louange. Elle nous donne et nous donne une idée juste de qui nous sommes, mais elle dirige notre conduite dans toutes nos relations, incluant avec nos ennemis. Il dit pourquoi? Parce qu'il dit, nous sommes les imitateurs de Dieu, et parce que nous sommes ses enfants, nos relations doivent démontrer la combinaison entre l'amour et la justice. Combinaison qu'on voit dans la croix. Dans la croix, on voit la justice de Dieu, mais on voit aussi l'amour de Dieu. Et ce matin, dans le passage qu'on va regarder ensemble, ou plusieurs passages qu'on va regarder ensemble, j'aimerais séparer le message en trois grandes sections. La première, j'aimerais introduire la croix elle-même. La deuxième chose, pourquoi la croix doit être au centre de notre prédication. Et troisièmement, nous mettre en garde. Parce que je dirais que la prédication de la croix est sous attaque dans bien des églises. Et qu'on puisse réaliser combien la croix est de plus en plus attaquée. Donc, premièrement, j'aimerais introduire la croix elle-même. J'aimerais qu'on tourne dans nos Bibles dans 1 Corinthiens, au chapitre 2. Comme texte d'introduction. 1 Corinthiens 2, versets 1 et 2. Qui nous dit ceci? C'est l'apôtre Paul qui parle. Paul a dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Puis le deuxième passage, c'est dans Galates 6, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous le lire. Qui dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a dit, la chose qui est le plus important dans mon ministère, dans ma vie, c'est la croix de Christ et Christ mort, crucifié. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle ensemble de la croix. Mais je vais vous dire que ce n'est pas facile de décrire la croix. Qui a la sagesse et la connaissance pour parler de la profondeur de la croix? Mais je ne suis pas tout seul. Je vais vous citer encore John Stott qui dit ceci. Il n'y a aucun défi plus grand et plus difficile pour les dirigeants chrétiens que de faire connaître la vraie signification de la croix. Pourquoi? Il dit à cause de la profondeur de la croix et de tout ce qu'elle représente pour nous. La croix, c'est tout pour le chrétien. Puis peut-être tu te dis, bien, si c'est difficile que ça, c'est difficile de parler de la croix, pourquoi en parler? On pourrait parler de nos mariages, de nos enfants, de nos familles, de l'amour de Dieu. Pourquoi parler de la croix? Si c'est si compliqué que ça, pourquoi prendre le temps de le faire? John Stott ajoute ceci. Parce que la manière que nous pensons et que nous agissons doivent être définies par la croix. La croix doit être centrale dans la vie de chaque chrétien. Parce que c'est le seul moyen que Dieu utilise pour acheter des pécheurs et nous sortir de l'enfer. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de plan B. C'est le seul moyen. Un autre pasteur, Martin Lloyd Jones, a dit ceci. La croix est le centre de l'histoire de l'humanité. Le centre de l'humanité, c'est la croix. La croix est l'apogée des faits marquants qui se sont déroulés dans toute l'histoire des hommes. Elle fut l'heure la plus importante depuis la création du monde. Tout converge vers la croix et tout rayonne à partir d'elle. L'ensemble des prophéties bibliques attire l'attention vers ce récit. La croix est le point central qui détermine et oriente l'avenir de l'humanité. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'à partir de la croix, tout a changé. Complètement. Donc, j'aimerais en commencer l'introduction en nous parlant premièrement du symbole de la croix et ensuite du supplice de la croix. Vous savez, chaque religion du monde, chaque idéologie possède un signe distinctif. Si je vous montre ça, qu'est-ce que ça vous dit? L'étoile de David, hein? Israël. Ça, c'est pour les gens. Si vous voyez ça, la fleur de lys, hein? Le Québec. Si je vous dis ça, le marxisme. Voyez-vous, chaque idéologie, chaque religion, chaque pays a son symbole. Pour les chrétiens, notre symbole, c'est la croix. C'est ça notre symbole. Mais je vous dirais que le symbole de la croix aujourd'hui, pour bien des gens, c'est une breloque après le ou une chaîne dans le cou. Mais la vraie signification de la croix, c'est bien plus que ça. Si on recule 2000 ans en arrière, pour le premier chrétien, la croix, ça voulait dire la mort. La mort de soi-même ou la mort de d'autres personnes dans notre famille qui ont décidé de croire en Christ. Plusieurs chrétiens ont été crucifiés après, et même avant. Dans leur temps, porter sa croix voulait dire quelque chose de bien différent de nous autres. Le symbole de la croix. Mais il y a aussi le supplice de la croix. J'aimerais qu'on tourne dans Marc 15. Parce qu'on ne peut pas parler de la croix sans lire le récit de la crucifixion. Marc 15 à partir du chapitre 12. Marc 15 à partir du verset 12. Marc 15, 12 nous dit ceci. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Et ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le! » Pilate, voulant satisfaire la file, le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verre Jésus, il leur livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent ensemble toute la cohorte. Il le revêtit de pourpre et posa sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs! » Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, fléchissant le genou, il se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôta la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et regardez ce que la Bible nous dit sur la crucifixion. Ils le crucifièrent. Point. Aucun détail. Ils le crucifièrent. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le sujet de sa condamnation, portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient, se secouaient la tête en disant, « Hey, toi qui détruis le temple, qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de ta croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux en disant, « Il a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. À la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloï, Éloï, lama sabachthani !» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre et l'ayant fixé un roseau, lui donna à boire en disant, « Laisse, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José et Salomon, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le supplice de la crucifixion. Et j'aimerais prendre quelques minutes, sans aller dans tous les détails, mais parler de l'histoire et de la dureté de la croix. On dit que la croix a été inventée par les barbares, 600 ans avant Jésus-Christ. Mais les Romains et les Grecs, sur une période de 500 ans, sont devenus de meilleur en meilleur pour crucifier les gens. Comment devenir meilleur pour quelque chose qui est tellement difficile? Faire allonger la vie le plus longtemps possible, pour que la personne sur la croix souffre le plus longtemps possible. C'est cruel, hein? On est devenus des maîtres à étirer la vie des gens pour qu'ils souffrent le plus longtemps possible. On dit que dans certains cas, les victimes souffraient durant plusieurs jours avant de mourir, pendues sur la croix. La crucifixion était tellement cruelle qu'elle était interdite pour les citoyens romains. Si tu étais un citoyen romain, on n'avait pas le droit de te crucifier, sauf dans les cas d'extrême trahison. C'était réservé pour les pires criminels, condamnés de meurtre, rébellion ou vol à main armée, et tu devais être un esclave ou un étranger pour être crucifié. La crucifixion était tellement difficile qu'on interdisait aux enfants d'y assister. Il y a un grand politicien qui s'appelle Cicéro qui a dit ceci de la croix. Lui a vécu un an, 100 ans avec Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit concernant la crucifixion. Il dit, attacher un soldat, attacher un citoyen romain, c'est un crime. Le fouetter, une abomination. Le tuer, un meurtre. Mais le crucifier, quel mot utiliser? Il n'y a aucun mot qui puisse décrire une mort si atroce. Et il en avait vu, le gars, là. Il dit, il n'y a pas un mot qui peut nous décrire l'atrocité de la croix. C'est pas pour rien que Deutéronome 21 nous dit, « Maudit est celui qui est pendu au bois. » C'est aggrave. Il ne faut pas oublier que la crucifixion ne commença pas avec les clous. Hein? Ça commença bien avant ça. Quelqu'un qui était crucifié, les clous dans les poignets, dans les mains, c'était la fin. Ça commença bien avant. Bien avant. Premièrement, il y avait la flagellation. On prenait un fouet et au bout, il y avait des bouts de fer, il y avait des os. Et le but de ça, c'était pas juste de marquer le dos, c'était d'arracher la peau. Et souvent, on dit qu'il y avait des muscles et même l'intérieur des gens qui sortaient après la flagellation. Imaginez. L'agonie était tellement difficile que plusieurs mouraient juste là, en se faisant flageller. Ils mouraient là. Ils ne se rendraient même pas à la croix. Mais si tu passes à travers la flagellation, la prochaine chose, c'est l'humiliation publique. Là, on te donnait ta croix et on te faisait marcher à travers la ville. Et là, les gens se moquaient de toi, comme on l'a vu tantôt. Les gens crachaient sur toi. Les gens te criaient dessus pendant que tu marchais à travers la ville avec ta croix. Et là, on te couchait à terre et on t'introduisait des clous comme ça dans les poignets et dans les pieds. Imaginez. Et là, on prenait ta croix et on les laissait tomber dans le fond d'un trou. Et là, l'agonie commençait. Agonie qui pouvait durer des heures, même des fois des jours. Et tu mourrais normalement d'asphyxie. Parce que tu n'étais plus capable de te relever. Et finalement, tu mourrais asphyxié. Parce que tu n'étais plus capable de respirer. C'était une mort atroce. Et pour Christ, en plus, tous ses amis l'ont abandonné. Incluant son Père. Imaginez, là, celui que Christ avait eu durant l'éternité, une relation avec, son Père lui tourne le dos. Pas étonnant que Christ a crié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce que c'est parce que Christ ne le comprenait pas? Oui, il comprenait. Il faisait partie de son plan. Mais on peut voir, sentir la douleur de Christ. De même être abandonné par son Père. La croix est au centre de l'Évangile. Et quand on enlève la croix, c'est plus l'Évangile. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans Galates 1:8. Ça devient un autre Évangile. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde dans le troisième point tantôt. Donc, le supplice de la croix. Ensuite, la croix au centre de la prédication. Pourquoi la croix doit être au centre de notre prédication? Pourquoi parler du Dieu crucifié, comme Martin Luther disait? Et c'est ce que c'est, le Dieu crucifié. Pensez-y. Aucune religion du monde a un Dieu qui se sacrifie. Aucune. Toutes les religions du monde, leur Dieu demande des sacrifices de leur part. Pourquoi parler d'un Dieu qui se retrouve nu, pendu sur une croix, entouré de passants qui crient après lui, qui crachent dessus, qui le battent, humilié, abandonné par ses amis. Quel Dieu s'abandonnerait à ça? Notre Dieu. Notre Dieu s'est abandonné à ça. C'est fou, hein? Aucun Dieu s'abaisserait jusque-là, sauf le Dieu de la Bible. Pourquoi la croix doit être au centre de notre prédication? L'apôtre Paul nous dit ceci, dans 1 Corinthiens 1, 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La croix, c'est la puissance de Dieu. Il ajoute ceci. « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la prédication de la croix. » Pourquoi que la croix doit être au centre de notre prédication? Parce que la croix, c'est la seule chose que Dieu a donnée pour racheter des hommes et des femmes de l'enfer. Il n'y en a pas d'autre moyen. C'est le seul moyen. Même si c'est une folie aux yeux du monde. Et ici, l'apôtre Paul, il dit dans 1 Corinthiens 8, « La prédication de la foi, c'est une folie pour ceux qui périssent. » Et le mot en grec, si vous allez le reconnaître, c'est le mot « moria ». Ça vous fait penser à quoi, Moria? Moron. Hein? C'est une imbécilité pour les Grecs, la croix. C'est ce que c'est. C'est croire en la croix, il faut que tu sois un moron pour les Grecs et les Romains. C'était tellement une imbécilité qu'on a trouvé sur un mur en Grèce, 200 ans après Jésus-Christ, un graffiti. Fait que les graffitis, ça n'a pas été inventé dans les années 2000. 200 ans après Jésus. Et savez-vous, c'est quoi le graffiti? C'est un homme pendu sur une croix avec une tête down. Pour se moquer de la croix, se moquer de Christ. Paul est dit, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, la croix, c'est une folie. C'est une moria. C'est moron. Mais il dit, pour nous, c'est la puissance de Dieu. Pourquoi le scandale de la croix doit être prêché? J.C. Riley nous dit ceci. La croix est le fondement de toute la Bible. Si vous n'avez pas encore découvert que Christ crucifié est la clé qui permet de comprendre toute la Bible, votre lecture n'aura pas été concluante. Votre foi est alors comparable à un ciel sans soleil, une boussole sans aiguille, une lampe sans huile. Elle ne vous consolera pas et ne sauvera pas votre âme de l'enfer. Si tu ne comprends pas que la croix, c'est le centre, le message central de la Bible, tu ne comprendras jamais pourquoi Dieu est venu. Donc, notre théologie, tout ce qu'on croit, tourne autour du sacrifice de la croix. Voyez-vous, en prêchant la croix, on suit les traces de Christ. Parce que Christ a prêché la croix. Et les apôtres aussi. Et on se fait juste suivre leurs traces. Christ avait une seule mission en vue, et il ne l'a jamais perdue. Mourir. Dans l'évangile de Jean, Jésus a dit sept fois, « Mon heure n'est pas encore venue. » De quoi il parlait? De sa mort sur la croix. Sept fois, Jésus a dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » On va tourner dans Jean 12. Jean 12, 23 et 24. Cette fois, Jésus a dit, « Mon heure n'est pas encore venue. » Mais regardez ce qu'il dit, Jean 12, 23. Jésus leur dit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. C'est mon temps de mourir. La croix est arrivée. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Les versets 32 et 33. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il parlait ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La prédication de la croix était au centre du message de Christ et au centre aussi des apôtres. On n'a pas le temps d'aller voir tous les passages, mais c'est au centre du message des apôtres. Quelqu'un dit ceci. Ôter la croix de sa position centrale dans la Bible et ce livre devient un livre obscur. Devient un livre comme les autres. Aucune force pour transformer si vous enlevez la croix de la Bible. Mais le problème aujourd'hui avec la prédication de la croix, c'est que certains prédicateurs vont nous dire « La croix, c'est offensant. La croix, ça repousse les gens plutôt que les attirer. » On ne va pas quand même faire peur aux gens en leur parlant ouvertement du péché, de sang puis d'enfer. Voyons, on va vider nos églises. Ben oui, on va leur parler de la croix. Parce que c'est la seule manière que Dieu a donnée pour sauver les hommes. Il n'y en a pas d'autre manière. Ce n'est pas à nous d'annoncer le message. Ce n'est pas nous autres qui sauvons. C'est Dieu. Et Dieu a choisi la folie de la croix pour sauver des hommes et des femmes. La preuve, c'est ce que tu lisais pour me sauver. C'est ce que tu lisais pour vous sauver si vous connaissez le Seigneur ce matin. Ça ne fait aucun sens, mais c'est ça que Dieu a donné, la croix. L'apôtre Paul dit, « Il y en a plusieurs qui marchent à un ennemi de la croix de Christ. Je vous ai parlé et je vous en parle maintenant encore en pleurant. » L'apôtre Paul, il dit, « Je ne veux pas être cool. Je veux être véridique. » Même si ce n'est pas un message populaire. L'apôtre Paul a dit aux Galates ceci qu'il voulait ajouter à l'Évangile. Il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ à passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent renverser l'Évangile de Christ. » Quelqu'un dit ceci. Dieu ne cherche pas des célébrités populaires, mais des serviteurs fidèles. Puis il y a un prix attaché à ça. Il y a un prix à prêcher la croix d'une manière claire. Et ce qui m'amène au dernier point. La croix sous attaque. Vous allez peut-être me dire, « Ben Daniel, tu es alarmé. C'est pas si pire que ça, là. » C'est pas si pire que ça. Ben moi, c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je vois. Le problème, c'est que la croix n'est pas attaquée de l'extérieur, elle est attaquée de l'intérieur. C'est là qu'advient l'attaque. Et j'aimerais vous donner des preuves tangibles. Et pourquoi que je risque de déplaire en donnant des noms? Je vais vous expliquer pourquoi. Après, je vais vous donner des noms et des faits. Pourquoi je risque de déplaire? À cause du rôle de berger que Dieu nous donne. Voyez-vous, un berger devrait faire quatre choses. Nourrir les brebis, les diriger, les soigner s'ils sont blessés, et finalement, les protéger. Et un berger qui ne fait pas ça, ne fait pas ce qu'il est supposé de faire. Et c'est la même chose avec les anciens que Dieu vous a donné. Si on ne le fait pas, on fait pas ce que Dieu nous demande de faire. Christ a bien dit de nourrir son troupeau. Pas mon troupeau, son troupeau. Hébreux 13, 7 nous dit ceci. Nous veillons sur vos âmes et nous devrons rendre compte un jour pour chacun de vous. Et comme dirait M. Lemoine des fois, j'ai la chienne quand j'y pense. Est-ce qu'un Dieu, un jour, Dieu va vous demander des comptes, chacun de vous? Une tâche sérieuse. Et ce matin, ce que je veux nous dire, c'est qu'on soit vigilant. Parce que toutes sortes de choses à la TV et sur l'Internet aujourd'hui, qui nous parlent de la croix, puis il y a bien des faussetés. Quelqu'un a dit ceci. Une hérésie n'est pas forcément un reniement total de la vérité, mais plutôt une perversion de la vérité. Dans nos mots, on dirait beaucoup de vérité, saupoudrée avec quelques mensonges. Pourquoi c'est dangereux? Laissez-moi vous donner un exemple. Beau verre d'eau. D'accord? Vous seriez prêt à le boire? Je mets une goutte de cyanure dedans. Juste une. Qui est prêt à le boire? Ben, il y en a juste une. Ouais, pas, sauf Mme Lemoine. Mais vous voyez, j'en ai mis juste une goutte là, de cyanure. Là. Le restant du verre, là, c'est de l'eau pure. Est-ce que vous voyez le danger? Si on prend la vérité et on met juste des petits mensonges dedans. Ah, c'est pas si grave que ça. Oui, c'est grave parce que ça pollue tout au complet. Et c'est la même chose avec la croix. Des petites choses qui sont dites qui n'ont pas l'air si graves que ça, mais qui polluent la vérité de la croix. Le but, nous protéger des fausses doctrines. Il y en a. Mais c'est pas nouveau, hein? Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, l'Ecclésiaste nous dit. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit il y a 2000 ans à l'église d'Éphèse, avant de partir pour son dernier voyage. Il dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel l'Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Et vous savez, cette danse, cette tendance de plaire, de ne pas penser, d'être en relation avec le monde, c'est pas nouveau, là. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de M. A.W. Tozer. En fait, les hommes ont fait le livre ensemble. Regardez ce que M. Tozer a dit il y a 50 ans sur la croix. Il dit, « Une nouvelle croix s'est infiltrée imperceptiblement dans les milieux populaires évangéliques. Cette croix ressemble à l'ancienne, mais elle est différente. Les ressemblances sont superficielles, mais les différences sont fondamentales. Dans cette nouvelle croix a émergé une nouvelle philosophie, une nouvelle technique d'évangélisation, une nouvelle technique de prédication. Et j'aime ce qu'il dit à la fin. Nous ne sommes pas appelés à être des diplomates, mais des prophètes avec un message sans compromis. » Wow! On n'est pas appelé à des diplomates, mais des prophètes avec un message sans compromis. Mais il y a un prêt à payer pour ça. Donc, j'aimerais vous parler de ce que certains prédicateurs enseignent. Trois groupes que j'aimerais mentionner. Le premier, c'est le Faith Movement. Le deuxième, les églises émergentes. Et le troisième, l'Évangile de la prospérité. Voici certains noms. Kenneth Copeland. Rick Warren. Vous avez peut-être déjà lu son livre. Une vie, une passion, une destinée. Kenneth Hagin. Joel Osteen. Joyce Meyer. je pourrais en nommer d'autres. J'aimerais juste mentionner deux noms. Qu'est-ce qu'il enseigne? Le premier, Joel Osteen. On l'appelle le superstar des pasteurs américains. 45 000 personnes à son église. Son assemblée grandit toujours et voici son secret. Les gens s'y sentent à l'aise. Il n'y a pas de quoi dans son église, contrairement à nous. Un journaliste un jour a demandé à M. Osteen, pourquoi il n'y a pas de quoi dans votre église? Sa réponse, je veux ôter toute barrière qui empêcherait les gens de venir à l'église. Wow! La croix, une barrière! C'est fort, hein? Je veux enlever toute barrière, puis si la croix c'est une barrière, on va l'enlever! Aussi, il exclut tout ce qui est négatif, donc il ne parle jamais de péché, repentance, colère de Dieu, jugement, enfer. Son message. Dieu vous aime et désire vous sauver d'une vie médiocre et de rêves insignifiants. Son livre le plus populaire, Your Best Life Now, votre meilleure vie maintenant. Wow! Exactement le contraire de ce que la Bible enseigne. Matthieu 6, 33. Cherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Votre meilleure vie, là, elle va être dans la Nouvelle-Jérusalem, pas ici. L'apôtre Paul a dit ceci. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les gens les plus malheureux du monde. Qui a raison? Monsieur Osteen ou l'apôtre Paul? Mais moi, je pense pour l'apôtre Paul. Je pense qu'il a pas mal plus raison que Joel Osteen. Mais pourtant, son livre le plus vendu s'appelle « Votre meilleure vie maintenant ». Et c'est des prédicateurs de la croix. L'un de ses enseignements. Christ serait né en enfer après avoir souffert entre les mains du diable pendant 3 jours. Dans le but de payer notre dette à Satan. Christ ne devait pas rien à Satan. La dette, il l'a payée à son père. Joyce Meyer. On l'entend à la radio, conférencière bien connue. Joyce Meyer fait partie de ce qu'on appelle le Faith Movement. Et voici certaines choses que le Faith Movement croit. Le sang de Christ versé sur la croix n'est pas suffisant pour sauver. Christ a dû aller en enfer 3 jours pour être tourmenté par les démons et par Satan. Le Faith Movement enseigne aussi que Christ a cessé d'être fils de Dieu sur la croix. Pourtant, Hébreux 3:17 nous dit que Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Le Faith Movement dont appartient Meyer dit ceci. Christ a payé le prix de notre rachat à Satan alors qu'il était en enfer. Pourtant, Colossiens 2:15 nous dit, « Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a pu livrer publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. » Christ a triomphé sur le monde des ténèbres. Il n'a pas rien payé au monde des ténèbres. Et pourtant, c'est ce qu'il enseigne. Et il y a bien d'autres choses que ces gens-là enseignent. Je vous l'ai dit tantôt, hein? Ben de la vérité avec des petits mensonges dedans. Ça pollue la croix. Ça tord la croix. Il ne faut pas oublier que chacun de ces hommes et ces femmes sont un pasteur ou enseignant de la parole de Dieu. Faisons attention. Quelqu'un a dit ceci, qui est malheureusement vrai. Si Christ avait prêché le message de certains prédicateurs aujourd'hui, on ne l'aurait jamais crucifié. C'est vrai, hein? Le possible peut être populaire. C'est pour dire la vérité. Même si c'est offensant, et même si ça peut repousser certains. la folie des uns et la sagesse de Dieu. Donc, incluant le message de ce matin, j'aimerais faire une série de 8 messages sur la croix. Et voici ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Un message, pourquoi Jésus-Christ devait mourir sur la croix? Pourquoi il devait mourir? Un autre message, qui a cloué Jésus sur la croix? Judas qui l'a vendu? Les pharisiens qui l'ont emmené aux Romains? Les Romains? Qui est responsable de la crucifixion? On va faire une enquête ensemble. La croix nous sauve de quoi? Dieu veut que tu sois heureux. Non. On va parler de l'enfer. Chose qu'on ne parle pas souvent. Un message sur l'enfer. J'ai écouté un message, je l'ai partagé mercredi. Écoutez un message avec mon épouse mardi, j'en ai pas dormi mardi soir, puis j'ai pensé à ça toute la journée. L'enfer, là, c'est une place réelle, et ça ne sera pas drôle. De quoi la croix nous sauve? La croix dans l'Ancien Testament. On va regarder deux passages ensemble. Et on va voir que la croix est peinturée d'une manière que tu ne peux pas la manquer. On va regarder Isaïe 53 et Genèse 22. Quand Dieu demande à Abraham, sacrifie ton fils. Ensuite, un autre message, les trois cris de la croix. Christ a dit 7 choses avant de mourir. On va en regarder 3 ensemble. Et un dernier message, les bienfaits de la croix, le salut. Et on va voir que le salut, ça veut bien plus dire qu'un ticket vers le ciel. C'est profond le salut. C'est ce que la croix nous a donné. Ma prière, c'est qu'on ait une appréciation renouvelée de la profondeur de la croix. Ça a coûté cher à notre Dieu. J'espère qu'on ne puisse jamais oublier. Puis le repas du Seigneur est là pour nous le rappeler, hein? Combien Christ nous a aimés, combien ça lui a coûté. Donc ce matin, c'était simplement une introduction. Le supplice de la croix. Et on va en reparler. Combien c'était difficile, la croix. Et faire attention. Croyez pas tout ce que vous entendez sur Internet, pas TV. Bien, des choses qui ne sont pas vraies. C'était le but de ce message, d'introduire la croix ensemble. Et par la grâce de Dieu, passer les prochains mois à regarder la profondeur de la croix. Je vais juste terminer par la prière.